Mais tous de quoi on parle?
Qu'est-ce que la perspective religieuse?
Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas?
Oui.
Oh, plusieurs.
Wow, tout ça.
On appelle ça l'Advaita Vedanta. Dans le bouddhisme, je ne sais même pas trop, c'est Mahamudra, je crois même, tout simplement. On parle de la nature de la réalité, en fait. Et on ne fait pas qu'en parler dans ce que moi je propose, il s'agit d'aller vers, il s'agit de découvrir de quoi il s'agit. En français, on parle de perspective non duelle. Pourquoi? Parce que va s'effectuer un changement de perspective. De façon générale, on croit que l'on est cet organisme, on croit qu'on vit sur cette terre pendant un temps plus ou moins long, on croit qu'on est né, on croit qu'on va mourir, et on croit que on est, c'est nous qui pensons, que c'est nous qui effectuons nos choix, que c'est nous qui agissons. Tout ça, en fait, ce sont des croyances. C'est-à-dire qu'on a une sorte de perspective très réduite, comme si on avait des œillères, comme si le champ de la conscience se réduisait, se focalisait sur cet organisme, sur les croyances qu'on nous a inculquées quand on était petite. Il n'y a pas que ça, mais en partie, beaucoup nous les a inculquées. Et c'est comme si notre univers, finalement, se réduisait à « moi », entre guillemets, cet organisme que je crois être, cette personne que je crois être dans le monde, qui vit des choses, etc. Et qui est responsable de ce qu'elle fait, de ce qu'elle ne fait pas, etc. En réalité, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas d'individu séparé. Et si vous regardez de près, eh bien, est-ce que vous pensez vos pensées, ou est-ce que les pensées apparaissent? Par exemple, je viens de dire quelque chose. Ça fait un écho en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quelles sont les sensations qui apparaissent? Quelles sont les pensées qui apparaissent? Qu'est-ce qui se raconte en vous? Est-ce que tout ça, vous avez le choix que ça arrive, ou est-ce que ça se fait de soi-même? Est-ce que c'est vous qui avez pensé les pensées qui apparaissent depuis que vous êtes ici, ou est-ce que simplement, elles sont apparues? En dépit de vous-même, on pourrait dire. Et puis on peut continuer avec les choix et s'apercevoir qu'en fait, on n'a jamais rien choisi, quoi qu'on puisse croire le contraire. Même pas de venir ici ce soir. Parce que si vous avez, entre guillemets, choisi de venir ici ce soir, c'est en fonction de la façon dont est construit cet organisme, de ses conditionnements, de qu'est-ce que vous avez entendu par le passé, de vos croyances, ce que vous préférez aujourd'hui, etc., etc., sur lesquels vous n'avez aucun choix. Donc au bout du compte, que vous n'avez pas le choix d'être conditionné de telle manière ou de telle autre manière, de préférer ci ou ça, au bout du compte, vous pouvez apercevoir que vous n'avez pas choisi. Et pareil, là qui hoche la tête, qui bouge un peu, vous clignez des yeux, des gestes, des mouvements, est-ce que vous choisissez de les faire? Est-ce que ces actes se font d'eux-mêmes? Ou pas? C'est-à-dire, on va commencer comme ça, par exemple, et on va voir qu'en réalité, mince, je ne pense pas à les pensées, je n'effectue pas de choix, je ne pose pas d'actes, et je continue à dire « je ». Mais alors, c'est quoi ce « je » ? C'est quoi ce « moi » ? De quoi il est fait ? On croit qu'on est « moi », mais c'est quoi ? C'est la fameuse interrogation de Ramana Maharshi qui disait « quoi moi ?» qu'on a traduit malheureusement par « qui suis-je ?» qui suppose qu'il y a un « que », un « qui », un « je ». En fait, là, à l'origine, c'est « quoi moi ?» Et la question, c'est vraiment une question centrale. Qu'est-ce que c'est ce moi que je crois être? Et s'il n'y a pas de moi, alors que suis-je? Qu'est-ce qui est là? Parce qu'il y a quand même conscience d'être, il y a quand même une conscience. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que je suis, on pourrait dire? Et ça, c'est un deuxième volet qui est aussi passionnant à regarder, enfin, à quel tourner le regard. si vous essayez d'arrêter d'être la maman tout de suite, est-ce que vous pouvez? Ou est-ce que c'est conscient que, ben non, je ne peux pas ne pas être? C'est clair pour tout le monde, ça, hein? Si c'est pas clair, dites-le tout de suite. C'est clair. Alors, si je ne peux pas ne pas être, essayez d'arrêter d'être. Constatez, ah, mais je ne peux pas ne pas être. C'est su tout de suite. Tout de suite, c'est su. Qu'est-ce que c'est, cela qui ne peut pas ne pas être? Regardez de ce côté-là. Comment c'est d'être cela qui ne peut pas ne pas être? Et vous allez un peu plus loin et vous regardez, mais est-ce que cela qui ne peut pas ne pas être a l'idée d'être un moi qui est né et qui va mourir? Même d'être un homme ou une femme? D'avoir tel âge? Etc. etc. Et là, on s'aperçoit que tout ça s'effondre. Un peu comme quand on est scotché par la beauté d'un paysage. Quand parfois on dit on s'oublie, c'est un mal, on s'oublie et en fait on se retrouve quelque part. Il y a juste présence. Et il n'y a plus d'identification. Il n'y a plus de pensée. Et ce mot pensée est très important parce qu'en fait, souvent on croit ce que je voulais dire. D'une façon générale, on a tendance à croire un tas de pensées sans jamais regarder si elles sont vraies ou fausses. Par exemple, la croyance en un moi. Donc, on croit tous, à nos âges d'habitude, qu'il y a un moi. C'est indubitable. Bah, évidemment qu'il y a un moi. Qui t'es? Bah, je suis moi. Là, on va se montrer du doigt en plus. On peut bien dire qu'on croit qu'on est ça. Mais c'est quoi ce moi? Il est fait de quoi? Il est où ce moi? Est-ce que vous le trouvez quelque part? Et puis on peut croire plein d'autres choses. Oui, regarde ce qu'il m'a fait, mais tu te rends compte, c'est un scandale, mais ça se fait pas. Ben si, puisqu'il l'a fait. Il y a la nature de la réalité, telle chose est arrivée. Et puis il y a l'histoire qu'on va raconter autour. C'est super, ou c'est vraiment un scandale, enfin peu importe ce qu'on va se raconter, qu'on va raconter, en fonction de notre conditionnement, en fonction de nos gènes, en fonction de nos préférences, en fonction de la façon dont on s'est construit, en dépit de nous-mêmes. Et maintenant, si vous imaginez un instant que vous déposez toutes vos histoires, toute l'histoire de moi, tout ce qui, non pas les événements, mais tout ce qui a pu se raconter autour, tout ce qui a pu se raconter autour. C'est à moi que c'est arrivé. Vous voyez? C'est encore à moi que ça arrive. Et tu te rends compte. Et, ou je ne sais pas quoi. Ou, oh, c'est vraiment super, t'as vu ce qui m'arrive, peu importe dans quel sens. Mais toutes ces histoires autour de moi. Si vous déposez tout ça un instant, qu'est-ce qui reste finalement? Et si vous arrivez à déposer tout ça un instant, vous vous rendez compte que toutes vos blessures, toutes vos souffrances, tous vos mal-êtres disparaissent. Il reste juste ce qui s'est produit. Et peut-être que dans ma tante, on pourrait me dire croire que tout ce que j'ai vécu, regardez ça. Et si cette histoire-là, vous la laissez s'effondrer, qu'est-ce qui reste? parler très longuement ce soir.
Tout seul.
Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin ensemble, quoi. De répondre à votre question, aux questions, de voir comment ça réagit, ce que je dis, ce qui se passe, et puis d'aller plus loin si ça me tente. Retenez surtout qu'il s'agit de la nature de la réalité. Il ne s'agit pas d'abandonner des croyances au profit d'autres croyances. Il ne s'agit même pas d'abandonner des croyances. Il s'agit de regarder, mais est-ce que ce que je crois est vrai? Et puis, regarder, mais alors, si ce que je croyais est faux, mais alors, qu'est-ce qui est vrai? Et c'est direct. C'est un regard direct, c'est une écoute directe, c'est une rencontre directe avec soi-même, en fait, avec ce que l'on est en fond, du fond. À vous.
Je sens quand même une localisation.
Oui, bien sûr.
C'est une présence qui est plutôt ici.
Mm-hmm. Oui.
C'est ce qui continue à me surprendre, parce que ayant vécu l'expérience de ne pas être localisé très longtemps, ayant eu ce goût, se retrouver effectivement à la recherche de la petite dose qui fait effectivement il y a une sorte d'allègement de soi. Malgré tout, sur le plan intellectuel, je pense
que la bonne nouvelle, c'est que, ayant fait déjà l'expérience de ne pas être localisé, tu sais en toi profondément que cette sensation d'être localisé n'est pas définitive. Tu vois ? Que c'est quelque chose qui arrive ici maintenant. Mais que, en réalité, ça ne dit rien à propos de ce que tu es.
Oui, mais ça ne fait que mettre du sel sur la blessure, parce qu'effectivement, il y a ce goût qui reste.
Et... Mais surtout, si tu crois que c'est mieux de vivre je ne suis pas localisé que de vivre je suis localisé.
Alors,
si tu crois que telle expérience est meilleure que telle autre.
Non, mais localisé, tout va bien. Mais non localisé, t'avais le goût.
Eh oui. Bien sûr.
C'est arrivé de toute façon.
Mais c'est une expérience.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
L'intérêt de cette expérience, c'est ce qu'elle te montre. Tu n'es pas ce que tu crois. Et c'est à partir de là que tu peux rebondir. Et lâche l'expérience.
Ouais.
Ce n'est qu'une expérience. La réalité est en amont de toute expérience. Ce que tu es est en amont de toute expérience. Que tu te vives localisé ou non localisé, ce n'est qu'une expérience. Ce que tu es n'est ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, sur la balance, c'est plutôt localisé. Conscient de
l'être. Oui, mais il n'y a pas de problème avec ça.
Non, il n'y a pas de problème, mais il y a une recherche permanente qui peut être un jeu de rechercher un état, même si c'est une expérience.
Ok.
Avec le notion de lien plutôt.
J'entends bien, il y a une nostalgie, je trouve qu'on passe tous par un truc comme ça, après des expériences fortes. Mais maintenant, lâche cette recherche une seconde. Oublie tout ça. Comment c'est? La maman tout de suite.
Tout va bien, mais c'est là. Quoi.
Tout va bien. C'est-à-dire que ce qui crée une tension, ce qui crée un mal-être, c'est pas l'état dans lequel tu te trouves maintenant. C'est l'idée, ah si seulement, ah j'aimerais tellement que. C'est la recherche qui crée le mal-être. C'est pas l'état dans lequel tu es. Tu vois ce que je veux souligner?
Oui, je vois très bien, je vois effectivement très bien, malgré tout. Même en faisant abstraction, même en étant juste là. De toute façon, les fois où c'est arrivé, c'est pas arrivé en étant recherché. s'est tombé.
De toute façon.
Ça a duré quelques années. Ça s'est dissous. Et par contre, il reste effectivement le goût, la nostalgie, la culture. Bon, en même temps, je me suis dit, je vais finir le jour comme ça, en erreur comme ça, de temps en temps.
Mais même ça, c'est trop.
Oui, peut-être. C'est l'histoire.
C'est l'histoire. Et même il reste le goût, c'est l'histoire. Même. Toi, c'est ça que je suis de te montrer, c'est l'histoire. J'ai vécu quelque chose qui avait un goût tellement extraordinaire que j'aimerais tellement le revivre. Vivre ça tout le temps. C'est juste pas possible. Tu cours après quelque chose qui n'est pas possible, ça sert à rien. Tu te fais du mal pour rien. Tu te mets du mal.
Oui,
c'est pas... Non, je sais bien, c'est pas. Tu crées une tension, tu crées une recherche.
Oui, oui, c'est...
Qui en plus.
C'est devenu un jeu d'ailleurs.
Oui, et, bien sûr, oui. Mais qui de plus t'éloigne, enfin apparemment, on peut jamais s'en éloigner, t'éloigne de ce que tu cherches. Parce que quand tu es dans cette tension, la chance que ça se produise est vraiment infime. Sauf par inadvertance.
Oui.
Par contre, lorsqu'il y a complète détente, tu ne peux pas ne pas vivre simultanément. Ça est la totalité. Mais c'est plus une expérience. C'est-à-dire c'est dans l'autre sens. D'une façon générale, on cherche à atteindre quelque chose. On cherche à acquérir quelque chose. On croit que ça arrivera tellement mieux lorsque. En fait, c'est faux. Ce que vous cherchez, vous l'êtes déjà. Tu cherches à faire l'expérience, on va dire, de l'unité, pour en coller un mot dessus, tu es l'unité.
Non, chaque mot que tu prononces, je veux être de 100% d'accord.
Je sais.
Et au niveau ressenti, il y a toujours ce sentiment que le local.
Qu'est-ce que ça contre le local?
Bon, ça va. Bon, il est vieillissant, un peu.
Ouais.
Mais, en fait, c'est plutôt d'être surpris d'être toujours limité. Mais dans le sens très subtil.
Il y a un subtil refus de se sentir limité. Le refus a besoin d'être regardé. Être épousé.
C'est vrai, on ne fuit jamais tout seul.
Pardon ?
C'est vrai, on ne fuit jamais quand on est tout seul. On fuit quand on a des spectateurs.
Je ne sais pas. Je crois qu'on peut refuser tout seul dans son coin aussi. Plein de choses.
C'est très ésotérique pour moi.
Oui.
Mais je voulais savoir, est-ce qu'il faut une démarche particulière pour atteindre ce que vous dites, la délocalisation, ou bien des substances particulières.
Ne vous attachez pas à des expériences de style de
Bacchus. Non, mais en fait, je prends la conversation en cours. Ouais. Vous avez fait un échange.
Oui, ben après, je réponds à
moi,
chacun.
C'est très, très ésotérique.
Oui, oui, mais c'est pareil, il parle de ça, je réponds en fonction de ce
voilà,
qu'il dit.
Voilà, d'accord.
Hein. C'est pas, si on parle autre chose, je vais parler d'autre chose et autrement, forcément.
Oui, bien sûr.
On parle de perspective, c'est-à-dire de regard. Chez moi, ça vient en termes de regard. La seule chose qu'il y aurait, entre guillemets, à faire, parce qu'en fait, il n'y a personne qui puisse faire quelque chose, puisqu'il n'y a pas de moi. Et là, ça se mord la queue, je suis d'accord. Hein. On est en plein paradoxe. On est en plein paradoxe. La seule chose qu'on pourrait, à la rigueur, imaginer faire, c'est revenir au regard que l'on est. Je dis regard parce que c'est comme ça que ça vient chez moi. D'autres parlent d'écoute, on pourrait parler de constater, on pourrait parler de être avec. Peu importe le mot. Vous attachez pas au mot. Changez le mot si celui-là ne vous convient pas. Mais en ce moment, vous me regardez, et il y a une vision, c'est direct. C'est pas une croyance. C'est direct. D'accord ? Et quand vous me regardez, vous savez que vous êtes en train de me regarder.
J'ai choisi.
Bon.
Non ?
Parce que vous avez choisi de baisser la tête et de tourner la tête un peu vers la gauche tout de suite.
Ah bon ?
Est-ce que vous avez choisi consciemment de sourire et de plisser les yeux là tout de suite ?
Oui.
Oui ou non ?
Ben oui.
Vous l'avez choisi consciemment ? Ou ça s'est fait ?
Enfin, je ne voudrais pas faire un échange comme ça.
Est-ce que vous avez choisi consciemment de dire ce que vous venez de dire ? Est-ce que vous avez dit « Ah tiens, je vais dire ça » ou est-ce que c'est apparu ? Est-ce que vous avez choisi de ressentir la légère gêne que vous ressentez ou est-ce que c'est apparu ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que j'appelle le regard.
Oui.
Qu'est-ce qui apparaît ? Et alors, ah tiens, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est ? Qu'est-ce que c'est qui est là ? Je vais regarder, mais est-ce que c'est moi qui le fais ou est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est moi qui le pense ou est-ce que ça pense ? La pensée est apparue. Est-ce que je perçois la lumière ou est-ce que la lumière est perçue ? Est-ce que je respire ou est-ce que le corps respire ? Ça respire tout seul. Au début, ça peut être banal. Et après, ça peut être, mais... Est-ce que je suis blessé ou est-ce qu'il y a ressenti d'une blessure ? Est-ce que je suis triste ou est-ce qu'il y a tristesse ? Ou est-ce qu'il y a enthousiasme ou est-ce que je suis enthousiaste ? Et c'est quoi ce jeu ? Et tout ça, c'est ça le regard. D'un premier temps, il va d'abord se porter sur les phénomènes, sur ce qui apparaît, les pensées, les émotions, les événements de la vie, etc. Les sensations, les perceptions, enfin tout ce qui peut apparaître dans le champ de la conscience, on va dire. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est « mais je suis conscient qu'il y a regard. Je suis conscient de ce regard. Je suis conscient d'être conscient, on pourrait dire. » Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient ? C'est-à-dire que le regard ne s'intéresse plus seulement au phénomène, il s'intéresse à lui-même. C'est quoi « moi » « regard » entre guillemets ? Parce qu'on va continuer à utiliser « je me vois ». C'est une facilité langagière. C'est comme je dis tout à l'heure, si vous essayez d'arrêter d'être, vous vous rendez compte, ah ben, je ne peux pas. C'est su. Et cela qui ne peut pas ne pas être, il est connu. On en est conscient. Quand on regarde de ce côté-là. Mais la plupart du temps, c'est oublié. Et pourtant, si vous regardez, quand vous essayez d'arrêter d'être, vous savez que vous êtes, vous savez que vous ne pouvez pas ne pas être, et vous savez que ça a toujours été là. Regardez. Si vous avez un doute, on en parle. Regardez. Est-ce que c'était là quand vous étiez petit, petite ? Est-ce que c'était là hier ? Est-ce que c'était là quand vous étiez malade et en bonne santé ? Quand vous étiez heureuse ou malheureuse ? Heureux, malheureux ? Ou pas. Que vous en ayez eu consciemment conscience ou non. Et c'est ça le regard, c'est mais regardez, c'est la nature de la réalité. Comment c'est en réalité ? Et cela qui ne peut pas ne pas être, on l'appelle je suis, on l'appelle être-té, étance, peu importe le mot, changez-moi si cela ne vous convient pas. Conscience, présence, peu importe le mot. C'est-à-dire qu'on passe de être collé au phénomène, croire dans les pensées, croire que c'est à moi que ça arrive, etc., à ne pas être collé, regarder tout ça arriver en moi. Ah, tiens, mais je suis. Et puis il y a encore une autre marche, enfin un autre stade qui est, mais même ce je suis, même cet être-té est connu. Qu'est-ce qui la connaît ? Qu'est-ce qui connaît tout ce qui peut être connu ? Et là, le mental est soufflé. c'est pas trouver la réponse avec le mental, dire ben jamais.
Donc je suis un peu perdu. Le moi et le je n'existant pas, qui c'est qui définit ce que c'est la vérité ?
La vérité ?
La réalité. La réalité. Il faut parler.
Est-ce qu'il faudrait.
C'est le moi et le je qui voit la vérité.
Ça, y a-t-il besoin d'un quelqu'un ? Parce que qui c'est qui sous-entend qu'il y a forcément quelqu'un qui.
Mais si on n'est pas soi, on est schizophrène.
J'ai pas l'impression d'être schizophrène, j'ai l'impression d'être moi, mais c'est pas le même, c'est pas le moi dont on parle habituellement. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de moi qui pense par lui-même, qui effectue des choix par lui-même et qui pose des actes par lui-même. Que les pensées apparaissent, que les choix se font, et que les actes sont posés. Sans individu séparé appelé moi, qui fait cela. C'est ça que je dis. Après, on va continuer à dire je me moi, et je suis, quand on dit je suis, c'est encore, on utilise encore je. Mais ça n'a rien à voir avec la schizophrénie. Mais ne me croyez pas sur parole, regardez.
Mais je suis pas habitué de voir ce programme. Bien sûr, m'étant penché dans différents cas. Chose que les émotions sont plus fortes que l'intellect, etc. Ça, je comprends.
Ouais.
Que des choix à faire pour apaiser les émotions afin que la réalité soit différemment. Ce discours que vous tenez, je ne le connais pas. Mais j'ai adhéré pas.
Et j'ai pas entendu la fin.
J'ai du mal à adhérer.
J'ai du mal à adhérer.
Je le comprends. C'est avec intérêt.
En fait, c'est pas tant au discours qu'il y a lieu de s'intéresser, mais plus à l'interrogation. Je suis pas là pour délivrer une connaissance, mais pour interroger. C'est... On croit tous plein de choses, on les croit vraies. Est-ce qu'elles sont réellement vraies ? C'est une interrogation. Et je demande surtout pas qu'on croie sur parole ce que je peux dire, mais de regarder qu'est-ce qui est vrai pour moi, en moi. Est-ce que c'est vrai que je pense? Ou est-ce que les pensées apparaissent? Quelque chose de très bête au départ, enfin très simple. C'est quelque chose qu'on peut constater de soi-même, par soi-même. Est-ce que je peux arrêter d'être? Oui ou non, quoi. Et si ça, ça ne parle pas, c'est... alors... on va aller toucher cet être-té par une autre voie. quand on parle de la nature de la réalité, de la perspective non-duelle, des choses comme ça, en réalité, d'Advaita Vedanta, de Dzogchen, en bouddhisme, etc. En réalité, on parle de ce qu'on a appelé, de ce qu'on appelle l'éveil, la réalisation, le mot qu'on met dessus. De la fin de l'ignorance, on reprend un terme bouddhiste par exemple, peu importe, je dirais de l'effondrement de croyances fausses.
Mais qu'est-ce qui vous dit que ces croyances sont fausses ?
Le regard.
Mais votre regard peut-être.
C'est bien pour ça, ne croyez pas ce que je dis. Regardez.
Donc, chacun a son propre regard. Hein, pour vous, quelque chose qui peut être faux peut être vrai pour moi. Et inversement.
Apparemment, oui. Ultimement, sûrement pas.
Et pourquoi ?
Regardez. Ne me croyez pas sur parole.
Ah ben non.
Regardez.
Moi, j'ai ma croyance.
Mais bien évidemment. Laquelle ?
Que je ne vois pas qu'on peut être. Si on n'est pas, on n'existe pas.
Est-ce que j'ai dit qu'on n'était pas ?
Bah, vous nous posez la question, est-ce qu'on ne peut pas être ?
Non, j'ai dit, est-ce que vous pouvez arrêter d'être ?
Non,
c'est la réponse.
Non.
Non. Donc on est d'accord ?
Ça me paraît logique.
Donc on est d'accord.
Pourquoi poser ces questions ?
C'est pas possible.
Parce que, à partir du moment où vous touchez cette être-té,
à quoi ça sert de se torturer l'esprit pour des choses qui sont là ? On est ou on n'est pas ? Je veux dire, pourquoi je vais me poser la question, je suis ou je ne suis pas ? C'est ça que je comprends pas dans votre démarche, c'est de poser des... La vie est déjà compliquée.
Pourquoi êtes-vous venu ce soir ?
Si on est plus, il faut essayer de comprendre pour...
Comprendre quoi ?
Pour voir autre chose.
Comprendre quoi ?
Ça m'intéresse.
Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ?
De voir votre vision des choses. Parce que j'ai une ouverture d'esprit, j'ai bien.
Il y a une recherche.
Ça peut m'apporter quelque chose.
Est-ce qu'il y a une recherche ?
Oui.
De quoi ?
Une recherche du moi.
Du moi ?
Mmh.
De, qu'est-ce que vous appelez le moi ?
Le moi. Je suis moi. C'est pour ça que je suis.
Et si vous savez que vous êtes vous, et puis c'est tout, que ça s'arrête là, il n'y a plus de recherche.
Bah si, il y a une recherche.
De quoi ?
Une recherche pour savoir exactement le moi, s'il peut y avoir d'autres moi.
Je crois savoir que c'est l'inconscient qui vous fait agir par rapport au moi, l'intellectuel, et qu'il agit différemment de comment on voudrait faire. C'est ça la recherche. Parce que souvent dans la vie, on est mis à mal par des actions ou des pensées qui ne sont pas en rapport avec ce qui est quelque chose de caché, qui est recherché. Enfin, comment j'étais cette recherche. Des choses qui vous échappent, que vous ne comprenez pas, qui agissent sur votre corps et sur votre esprit. Ça va en arriver à la maladie mentale, mais arriver à des émotions qui peuvent vous causer du tort pour être un peu bien dans la vie. Parce qu'il ne faut pas demander la vie, en tout cas pas moi. Mais être bien parce qu'il y a cet inconscient qui se joue de vous. Et l'émotion, voilà, on fait du sport, on fait plein de choses pour apaiser, mais c'est que, mais c'est pas pareil. Je parle en tort à travers.
Non,
cet inconscient qui est génétique, plutôt psychanalytique, etc. Donc, j'ai recherché ça. Mais c'est pas si évident. Et puis est-ce qu'il existe vraiment
D'un point de vue psy, évidemment, il y a un inconscient.
Oui, c'est leur théorie. Est-ce que c'est vrai ? Ça aussi, c'est une croyance. Si je rejoins un peu que j'ai compris. Un petit peu.
On pourrait dire que ce que vous cherchez dans ce que j'entends, vous allez me dire si je compte juste ou pas, c'est une certaine paix. La paix.
Les noms syndicales, je veux dire.
Pardon ?
Le minimum syndical.
Le minimum syndical de paix, on va dire ça comme ça.
Je suis pas prétentieux. Tant pis.
C'est-à-dire que il y a l'idée qu'en faisant telle et telle chose, en résolvant tel et tel problème, etc., etc., par une recherche, je vais atteindre la paix dont j'ai besoin pour aller bien. On peut dire ça comme ça ?
C'est une des facettes. Il y en a d'autres.
Lesquelles ?
Et celles qui nous échappent, celles qui rejoignent un peu ce côté mystérieux qui vous dégagez, parce qu'on a des mortels, je dois comprendre, cet être qui n'a pas de moi, etc. Il y a des choses inconscientes, des traumatismes, des choses qui ne reviennent pas par la recherche intellectuelle. Intellectuellement, vous pouvez avoir beaucoup de clés, vous ne savez pas quelle porte ouvre.
Oui.
Il faut la révélation. Ça a un nom, je ne me rappelle plus.
Oui, tout à fait.
Le terme exact, j'ai oublié. C'est la révélation qui enlève l'émotion négative. La révélation, le souvenir, etc.
C'est comme ça. C'est le point de vue psychologique, oui.
Voilà. Et si on n'y arrive pas, malgré tous ces efforts, ces recherches, on fait comment ? Parce qu'il vous rattrape. Dans des circonstances de la vie difficile, parce qu'il y a des périodes faciles, on met tout ça derrière le dos. Et tout va très vite.
La démarche, la démarche entre guillemets, proposée par cette perspective mondiale, ne va pas dans le sens d'une psychothérapie. Elle va dans le sens de la nature de la réalité, de regarder la nature de la réalité. Et ça a un effet thérapeutique secondaire, par effet de secondaire. C'est-à-dire que dans ce que vous dites, et je comprends très bien, j'étais psy, alors psychanalyste et psy dans plein de domaines, je sais bien, dans ce que vous dites, on entend bien une souffrance, on entend bien le désir de résoudre cette souffrance, du mieux qu'on peut, d'arrêter de souffrir soi-même et d'arrêter même de faire souffrir les autres avec nos problèmes. J'entends parfaitement ça. Et il est hors de question de dire qu'il ne faudrait pas le faire, que ce n'est pas bien, je ne sais pas quoi. Je sens bien que vous faites ça avec tout votre cœur et tout votre amour et avec tout ce que vous pouvez.
C'est une nécessité.
C'est comme ça que vous le vivez aujourd'hui. C'est évident. Et vous cherchez de tout votre cœur finalement, on pourrait dire, à manifester la paix, l'amour, l'ouverture, les qualités nobles. Et pas seulement pour vous, mais pour les autres. C'est très clair. Ce que montre la perspective mondiale, ce que montre la démarche, entre guillemets, lorsque le regard se pose sur ce que l'on est en vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de développer toutes ces qualités. Parce que nous sommes ces qualités-là en essence, par essence. Ça ne sert à rien de développer l'amour, je suis l'amour. Ça ne sert à rien de chercher la paix, je suis là, etc., etc. C'est-à-dire tout ce que l'on cherche, en réalité, nous le sommes déjà, et nous ne le voyons pas. Et ça n'est pas parce que se produit tel ou tel événement que nous cessons d'être ce que nous sommes. Ça n'est pas parce que nous n'en sommes pas conscients que nous cessons d'être ce que nous sommes. Et ce qui est proposé ici, c'est de regarder dans ce sens-là, jusqu'au moment où il devient clair que, oh punaise, mais c'est vrai, c'est ce que je suis. Et alors là, le problème dont vous parlez est balayé par effet secondaire, parce que je suis la paix que je cherchais. Et peu importe ce qui se passe à l'extérieur, je suis cette paix. Et même si un jour aussi ça hurle, parce que ça hurle, je suis cette paix. Et ça laisse pas de trace. C'est libre de tous les phénomènes. C'est ça la différence. On n'est plus dans une démarche psy. J'ose pas dire qu'on est dans une démarche spirituelle parce qu'il n'y a pas besoin de croire en Dieu ou dans des choses comme ça. C'est marrant. Quelque part, ça n'a rien à voir, entre guillemets. C'est savoir avec la nature de la réalité. Quel que soit le traumatisme événementiel qu'on a vécu, qu'on ne peut pas mettre en doute, Puis il y a des enfants battus, il y a des choses horribles qui se passent. On ne peut pas les mettre en doute. Cela ne peut laisser... Enfin, j'exagère un petit peu, mais bon, je vais le dire quand même comme ça, mais c'est une exagération. Cela ne peut laisser un traumatisme psychologique que s'il y a des pensées crues associées. Regardez par exemple, pensez à une fois où vous avez été blessé dans votre vie ou à la fois où vous étiez le plus terriblement blessé. Je dis, pareil, mais peut-être pour tout le monde. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de précis, il y a un événement. Quelqu'un a dit quelque chose, a fait quelque chose qui vous a blessé. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? Exemple. Personne n'ose. Il y a toute une palette de concertée possible. Oui. Sous-entendu, il n'aurait pas dû, ça se fait pas. Quel salaud. Oui, ce genre de choses.
C'est pas possible, ça marche pas comme réaction.
C'est pas possible.
C'est moche.
C'est moche. C'est moche.
Pourquoi?
Pourquoi il a fait ça? Exactement. Exactement. Etc. Etc. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez que toutes ces pensées ne soient jamais apparues. N'aient jamais pu apparaître. Imaginez un instant que toutes ces pensées n'aient jamais pu apparaître. Est-ce que vous êtes encore blessé? Ben non, on n'est pas blessé. Le problème, c'est que les pensées apparaissent. Oui.
Parce que la douleur est créée par l'identification qu'on a par rapport à nos émotions, à nos pensées, tout ça.
Voilà.
Si on n'a pas pensée. D'identification, tout s'écroule.
Exact. Et qu'est-ce qui reste?
Voilà, notre essence.
Mais qu'est-ce qui fait que ton organisme, tel organisme, peut-être ici dans la salle, ne va pas saisir cette pensée et que d'autres organismes vont prendre mal à la
blessure
à la nourrir?
Oh, oui. Je ne dirais pas qu'il n'y ait pas
la c'est le corps qui, à un moment donné, prend une sorte d'habitude ou est-ce que
c'est bien beaucoup de conditionnement. On va y venir, mais déjà finissons avec la blessure. Maintenant, imaginez que ces pensées apparaissent, mais qu'elles ne soient pas crues. Ouais, quel salaud! Bon, non, tout, qu'est-ce que j'en sais? Vous voyez ce que je veux dire? Ça laisse pas de trace, elle part la pensée, elle n'est pas crue.
Ça enlève rien à ce qui s'est passé.
Ça enlève rien à ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on est encore blessé? On n'est aussi pas blessé. Il n'y a pas besoin que les pensées n'apparaissent pas. Il y a juste besoin qu'elles soient pas crues.
Oui, mais alors on n'a plus d'émotion, on n'a plus de spontanéité.
Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont s'effondrer parce que tu as très bien compris, beaucoup d'émotions sont liées à des pensées. Je le déteste! Ouais, ça crée des trucs, ça c'est sûr. Mais si on ne peut pas penser je le déteste, s'il n'y a pas ça, ça c'est fou. Il y a des émotions qui vont rester.
Oui, voilà.
Il y a des choses, les choses vont continuer à apparaître. Et même la haine, non, mais la colère peut apparaître, par exemple. La tristesse peut apparaître, etc. Mais il n'y a plus d'identification. C'est pas à moi que ça arrive. Tiens, il y a colère. Ah, tiens, ça se met en colère, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh tiens, c'est triste, oh, c'est intéressant ça. Ah, oh tiens, c'est enthousiaste. Tu vois, il va y avoir la même curiosité pour ce qui apparaît. Et ça va être vécu pleinement. Et comme c'est vécu pleinement et pas bloqué, refusé, qu'on va pas en faire une histoire pour conserver mon identité à moi, tu te rends compte, ce qui m'a fait, ça ne se fait pas, ben ça passe. C'est vécu complètement pleinement, et ça laisse pas de trace, ça s'en va.
Ça ne modifie pas les relations avec les autres, alors ça? Parce que
je ne sais pas trop, mais un peu, ouais. Ah.
Ça est
non, mais je ne sais pas, c'est une démarche, je trouve, très individuelle, individualiste, puisque
non,
on dirait
qu'il y a un contraire très généreux.
Parce qu'il y a une abstraction de tous les autres. Et
au contraire, mais sinon, je ne serais pas là. Ah. Bonne réponse. Au contraire, on est beaucoup plus concerné, enfin moi dans mon cas, je vais parler que pour moi, beaucoup plus concerné par tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe nous touche. Il n'y a plus ces histoires de limites, de je juge juste ça. Tout. Ça ne peut pas. Je suis beaucoup plus touché, beaucoup plus profondément touché qu'avant. C'est pas moins, c'est plus. Par contre, c'est beaucoup plus doux. C'est bon, je pourrais presque dire. Même d'être aux larmes, même d'être triste, même d'être en colère, même de je sais pas quoi. C'est plus refusé. Et si il y a un refus qui apparaît, le refus est accepté. Donc c'est une expérience. Ah tiens, c'est intéressant ça. Mais c'est pas égoïste, c'est ce ah tiens, c'est intéressant, c'est le regard se porte sur ce qui arrive, sur l'événement, sur ce qui arrive en soi. Et ou bien la pensée qui crée cette réaction est vue, comme fausse et ça s'effondre, ou bien tout s'effondre de soi-même simplement du fait d'être vu. Ça arrive, c'est vécu, rencontré, et ça s'arrête, et ça s'effondre. Et ça laisse libre. Et de l'événement, et de ce qui a pu arriver dans le sein de cet organisme. C'est-à-dire que la grosse différence, c'est que ce n'est pas à moi que ça arrive, c'est en moi. Et tout peut arriver, presque. Pas la haine, par exemple. La méchanceté, c'est pas possible. Pas quelque chose qui viendrait inscrire une séparation, tu vois, comme ça. Refus de l'autre, c'est inimaginable. C'est ça le sens des paroles du Christ qui disait ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Et c'est en ce sens-là qu'il n'est pas possible de porter atteinte à quelqu'un, parce que c'est à soi-même qu'on fait du mal. Pas du tout égoïste. Alors c'est un ego qui englobe tout et tout le monde. Mais retenez ça par rapport aux blessures. Vous voyez bien que si les pensées n'apparaissent pas, on ne se sent pas blessé. Si les pensées apparaissent mais qu'elles ne sont pas crues, il y a un moment de hop. Et ça passe, c'est fini. Et ça laisse pas de trace. En fait, c'est ça qui se passe. Et c'est là où vous pouvez voir que ce qui crée les troubles, le mal-être, en fait, et là, on parle de la blessure, vous pouvez regarder pour la colère, pour la tristesse, pour plein de choses, ce qui crée le mal-être, ce n'est pas l'événement, c'est la pensée crue. Ce sont les pensées crues, les pensées auxquelles on croit. Il faut les penser, et en plus, il faut croire en ces pensées. Et que dès que les croyances s'effondrent, la souffrance, le mal-être s'effondre. Et alors vous revenez naturellement à ce que vous avez toujours été. Cette conscience d'être, cette être-té, ce je suis. Parce que vous ne pouvez pas ne pas l'être. C'est simplement comme masqué par toutes ces croyances.
Là, vous, dans votre définition, seules de fausses croyances masquent cette réalité. Donc, seules ces fausses croyances, ça veut dire qu'en fin de compte, vous travaillez sur la mémoire. Il y a bien quelque chose qui est enfui en nous. Et de temps en temps, ça ressort. Et on va l'alimenter, on va suralimenter. Et c'est ce qui va nous créer
des automatismes.
C'est un automatisme.
Oui. Parce qu'il y a une croyance de base qui est les pensées sont vraies. D'une façon générale, souvent on pense que nos pensées sont vraies. C'est rare qu'on regarde les pensées comme étant possiblement fausses. De facto, on pense que les pensées sont vraies, celles qui accrochent.
Ah mais moi, comme vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, d'un enfant qui a été battu, par exemple, moi je suis convaincu que le gamin, il a dans son subconscient qu'il restera toute sa vie, ça. C'est clair.
Mais
il passe par un moment dans sa vie où il va, si vous voulez, se rapprocher de cet élément-là, où là, peut-être que ça va le perturber énormément.
Donc, moi, je, tant qu'il y a identification,
bien sûr. J'ai des crises de peur et d'angoisse, oui. Et d'anxiété.
Oui.
C'est quelque chose qui est dans moi. Hein. C'est pas quelque chose que j'invente. Hein. C'est vraiment une perception de la mémorisation. C'est bien des mémoires anciennes
oui,
qui sont données,
je ne sais plus.
Et ça, ça revient. Donc, quand vous parlez seul de fausses croyances masque cette réalité, oui. Il n'y a rien à acquérir, rien à mériter. Seulement à porter le regard sur ses croyances. Oui. Mais j'arrête pas de ressasser ces vieilles croyances. Et normalement, c'est des mémoires.
C'est des mémoires.
Oui.
Mais pas les croyances. Les ressasser les croyances, peut-être, mais les voir comme n'étant que des croyances, c'est une autre histoire.
Moi, je viens là pour chercher, entre guillemets, une thérapie. D'accord ? Je ne viens pas pour rigoler.
Et moi non plus. Mais encore aussi, je viens rigoler. Non, mais.
Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas, sur les mains, il y en a peut-être 10, mais en règle générale, quand on vient, surtout quand on vient de lire ça, je pense qu'on a un certain besoin, quoi.
Un certain besoin de
s'aider. De m'aider en fin de compte à sortir soit de la torpeur, soit de cette peur qui m'envahit et qui m'empêche de vivre correctement. Okay. Moi je suis super psychiatre et je prends des médicaments.
Prenons la peur.
Ok ? Alors je souhaiterais que, et on sait très bien que les molécules. Non, regardez, les molécules, on sait très bien qu'elles agissent correctement. D'accord ? Oui. Et à un moment donné, ces molécules, elles ne sont pas assez fortes. Ça veut dire que c'est bien de la mémorisation qui est encore plus forte que ça.
Ça, c'est ce que vous pensez. En réalité, vous n'en savez rien. Non. On peut juste constater que les molécules marchent et qu'après, elles ne marchent plus. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas.
Moi, je suis content. Ça peut arriver comme ça.
Mais évidemment. On n'en sait rien, en réalité. Mais maintenant... Moi, mon discours n'est pas du tout de dire « ça n'a jamais existé ». Au contraire, ce qui a eu lieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des mémoires. Évidemment qu'il y a des mémoires. Évidemment qu'elles vont se réactiver à certains moments. Évidemment. Et quand ici, il y a de la colère qui naît, c'est qu'il y a des mémoires le plus souvent. À des idées, à des conditionnements, à des pensées crues. C'est la même chose. Évidemment. Je ne dénie pas ça du tout. Je dis attention, votre malheur ne provient pas de l'événement lui-même, mais des pensées associées à cet événement et qui sont crues. Tu viens me croire. C'est pas la même chose. Et je dis attention, au lieu d'essayer de traiter moi, regardez ces pensées et regardez est-ce qu'elles sont vraies, oui ou non. Est-ce qu'elles disent quelque chose à propos de la réalité, ou de vous-même, ou du futur? Parce que quand on parle de peur, c'est toujours le futur. Pour qu'il y ait une peur, il faut qu'il y ait une pensée de futur. Pas d'idée de futur, pas de peur. D'accord? Donc il faut déjà une pensée de futur crue.
Même dans l'instant. Hein.
Même dans l'instant. Tout à fait, même dans l'instant. Il faut une idée de futur crue. Déjà une. Mais qu'est-ce que vous savez de votre futur? Ça se trouve, vous allez vous écrouler dans une seconde, un anévrisme qui va péter. Je ne lui souhaite pas, mais. On n'en sait rien, mais on le craint. D'accord? Et après, vous parlez de peur, mais peur de quoi? La peur, c'est toujours un peu subtil, parce que la peur ne dit pas les pensées qui la créent. Il fait une démarche de plus pour les voir, souvent. De quoi, par exemple, si vous voulez bien.
Par exemple, il suffit que je fasse des choses que j'ai déjà faites depuis des années et des années pour qu'à un moment donné, je ne puisse plus les faire. Parce que je perds confiance en moi. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui
peur de perdre confiance en moi.
Absolument, c'est clair.
J'ai peur de perdre confiance en moi.
Ah, mais c'est pas que j'ai peur de perdre, je perds confiance, c'est pas pareil. Moi, j'en suis convaincu.
Mais alors, où est la peur?
La peur, elle vient, c'est une peur peut-être ancestrale.
Mais peur de quoi?
Peur de ne pas réaliser ce que j'avais réalisé jusqu'à présent. Donc, tout peut me faire peur, en fin de compte. De ne pas réussir, de ne pas, de ne pas réaliser quelque chose correctement. Voilà, c'est...
D'accord. Imaginez que vous réalisez, que vous réussissez rien de ce que vous avez réussi avant. Imaginez, allez au bout de la peur. Imaginez que ça y est, c'est arrivé, vous ne pouvez plus réaliser ce que vous avez pu faire avant, rien de tout ça.
Oui, je sais bien que c'est pas vrai.
Ok, le fait que peur de penser que quand même si ça va vraiment se passer, que ça y est, c'est fait, c'est déjà là. C'est quoi le problème? Lequel?
Parce que ça me mine, parce que c'est non, du qui s'accroche.
Que ça y est, c'est fait. Vous ne pouvez plus réaliser ce que vous avez réalisé avant. Ça y est, c'est déjà là. Ça change quoi dans votre vie?
Il a peut-être peur d'avoir perdu la reconnaissance des autres.
Je ne sais pas, laissez-le répondre lui. Moi, j'en sais rien.
Non, c'est plus, en fin de compte, le moi, en fin de compte.
C'est-à-dire?
Le moi, le mal-être, moi, et qui peut, en fin de compte, arriver aussi les relations que j'ai aussi avec
moi. Alors, imaginez que vous réalisez qu'il n'y a pas de moi. Ce moi, il ne peut pas être en souffrance.
J'essaie depuis des années et des années, mais voilà.
Ben oui, mais vous ne pouvez pas, puisqu'il n'y a pas moi qui peut le faire.
Mais je suis bien responsable de mes pensées, je suis bien responsable de ma propre vie. Non,
c'est pas une pensée, ça?
Oui.
C'est une pensée. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que vous êtes responsable de vos pensées? Comment pouvez-vous être responsable de vos pensées puisque vous n'avez aucune action sur les pensées qui apparaissent en vous? Elles apparaissent, malgré vous. Il y en a plein que vous aimeriez bien ne pas avoir. Vous aimeriez même pas avoir peur du futur. Vous aimeriez bien ne pas vous miner comme ça avec vos pensées. Et vous n'y arrivez pas, vous n'avez aucun contrôle sur vos pensées. Comment pouvez-vous vous rendre responsable de quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle?
Ça, vous me le dites parce que vous êtes bien vous.
Parce que je le vois, parce que je l'ai réalisé, parce que je le vois quand vous me le dites. C'est pas une croyance que je suis en train de vous énoncer. C'est une évidence pour moi. Sinon, je pourrais même pas avoir cette rapidité de réponse. Déjà, par exemple. Puis de toute façon, c'est évident. Regardez pour vous-même. Comment pouvez-vous vous rendre responsable d'avoir des idées de futur? Alors que vous n'avez aucun moyen de ne pas avoir d'idée à propos du futur. Comment pouvez-vous être responsable? Comment est-ce que vous pouvez vous rendre responsable de mesurer 1m80? Vous n'avez aucun moyen de contrôler ça, c'est pareil.
Non, mais il y a des choses où je suis très laxiste, si vous voulez. Où je suis très,
Je parle pas de laxisme.
Non, mais il y a des choses. Mais il y a vraiment des fondements. Proviennent de l'enfance, qui sont ancrés et qui ressortent.
Bien sûr.
Et voilà. Et malgré les traitements médicamenteux, à un moment donné, ça pète, quoi.
Oui. Mais c'est pas possible autrement. La preuve, parce que si vous pouviez faire quelque chose, ce serait déjà fini depuis longtemps. Évidemment. D'accord. Donc vous savez bien que vous n'y pouvez rien. Alors pourquoi vous faire du mal? Vous n'y pouvez rien et vous faites du mal, j'y peux rien. Mais c'est pas votre faute.
Pourquoi vous n'allez pas parler à quelqu'un? Vous le faites.
Pas, bien sûr.
Vous oubliez les médicaments.
Ah non, ça, ça ne regarde pas si vous permettez. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi vous faire du mal? Alors que vous n'y pouvez rien. Vous vous faites du mal parce que vous êtes conditionné à penser que vous en êtes responsable. Mais si depuis que vous étiez petit, on vous a dit « mais tu ne peux rien », vous seriez beaucoup plus tranquille. Donc, ce que je veux montrer, c'est que c'est simplement parce qu'on vous a conditionné à penser que tu es responsable. S'il n'y avait pas ce conditionnement, vous seriez beaucoup plus. Et alors ça, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Mais moi, ce que je fais aujourd'hui, je vous dis, mais regarde, c'est juste un conditionnement. Et en réalité, tu n'y peux rien, et tu le sais que tu n'y peux rien. Si tu regardes, tu vois tout de suite, mais j'y peux rien, c'est pas ma faute. Tout de suite, tu le sais, tu le vois. Arrête de te faire du mal. Ça ira déjà beaucoup mieux. C'est ça, quand je parle de la nature de la réalité. C'est exactement ça, mais regarde, et tu verras que ce que tu te fais endurer n'a pas de sens.
Ah bon?
Les souffrances que nous faisons endurer n'ont aucun sens. Il hein,
faut citer des cas précis.
Ben, on l'a.
Il y en a plein. La précarité.
Non, mais attendez, là, quand je parle de souffrance, je parle spécifiquement de mal-être psychologique. La précarité n'est pas un mal-être psychologique, c'est une réalité existentielle. C'est un événement.
Mais qui rend un mal-être psychologique.
Ou pas. Pour avoir été vécu en Inde plusieurs mois, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont dans une très grande précarité, y compris des gamins, et ils sont à sourire, mais qui se provient du cœur. Qu'on voit pas chez des gens qui ont plein de choses. Donc, ou pas.
C'est l'exception.
Ou pas. Tout peut arriver. C'est la manière dont on vit, c'est les pensées crues associées.
Acceptation.
Pardon ?
Accepter.
C'est trop accepter, c'est trop d'efforts. Vous ne pouvez pas accepter. Sinon, on accepterait plein de choses.
L'impuissance rend malade, pas l'impuissance.
Non, pas l'impuissance. L'idée qu'il ne faudrait pas être plus impuissant.
L'impuissance à réaliser des choses. Parce qu'il y a les autres qui ont le pouvoir sur certaines choses. Et vous êtes rien.
Mais oui, mais nous ne sommes rien.
Il n'y a que la fuite au théâtre.
Et alors
mais... On a été toujours dans le rang, etc., et qu'on n'y est plus pour X raisons.
Ben, on n'y est plus pas dans le rang. Ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça.
Vous avez gros problème. Être avoir été.
Pardon ?
Être avoir été, j'ai un gros problème. Mais j'ai fait l'ego, tout ce que vous voulez, j'ai accepté plein de choses. Il y a un minimum syndical, c'est mon mot préféré.
Ouais, ouais, un minimum syndical.
J'aurais dû être syndicaliste.
Le syndicaliste de la paix. C'est un bon syndicat quand même, syndicaliste de l'origine.
C'est bon.
C'est
bon. J'aime défendre.
Mais si vous regardez ce que je voulais regarder aussi dans ce qui vient de se passer dans ce que j'ai dit là, vous voyez que j'ai pas fait un acte thérapeutique, j'ai pas essayé de le soigner. Juste, je dis, mais regarde comment c'est en réalité. Et quand on regarde comment c'est en réalité, on se rend compte qu'il y a des choses qui s'effondrent, parce que juste elles n'ont pas sens.
Mais moi, je vois monsieur dans une réelle souffrance. Et quand on est en souffrance, on ne le voit pas faire.
Oui.
Malheureusement.
Oui.
Et on ne sait pas.
Mais si vous permettez-moi
quand même
de dire
ça. Comment vous faire?
Mais vous ne pouvez pas, n'essayez même pas, vous n'avez pas ce pouvoir.
Alors, alors.
Regarde, est-ce qu'elles sont vraies? Il ne s'agit pas d'enlever quelque chose qui est là, c'est là. C'est, tiens, ah tiens, il y a cette pensée-là qui apparaît. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce quelque chose qui prouve qu'elle est vraie?
Là, quand vous avez de la peine,
oui.
C'est une chose qui est
vraie. Il y a de la peine.
C'est une chose qui est vraie.
Il y a expérience d'une peine.
Et vous faites comment?
Ça ne fait pas souffrir. Ça dépend comment c'est vécu. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a de la peine?
Moi, j'ai perdu mon mari.
Ok.
Effectivement, j'ai eu la peine.
Mais bien sûr, c'est pas possible autrement. Mais en même temps, la peine, elle est douce.
Non.
Alors, qu'est-ce qui est refusé?
Bah, la mort. La mort de l'être cher quand c'est un accident.
Oui. Et s'il n'y avait pas de refus?
C'est difficile d'accepter ça.
Je ne dis pas d'accepter ça.
Bah,
je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Je dis, imaginez une seconde qu'il n'y ait pas de refus, pour voir comment c'est.
Mais pour moi, si vous ne vous refusez pas, vous acceptez. C'est le contraire.
Non, parce que vous parlez d'une acceptation comme un acte délibéré à poser, comme quelque chose que je vais faire, je vais accepter. Mmh. C'est pas ça dont je parle. Vous êtes l'acceptation même en fond. Comme vous êtes la paix, la joie, l'amour, etc., vous êtes l'acceptation, l'accueil de ce qui se passe aussi, y compris du refus. Ce que je vous propose, c'est une exploration pour voir. Je sais que c'est difficile. Il y a des choses auxquelles on tient. Et puis on est dans un milieu, dans une ambiance, dans une culture qui fait que ça se passe comme ça. Et puis si je perds mon mari, puis je me mets à rigoler le lendemain, puis je suis tout le temps heureuse, tout le monde va dire c'est que je l'aimais pas, j'ai dit là, comme ça, donc tout ça, on va pas lâcher comme ça. Et comprenez ce que je dis? Mais tout ça, c'est des empreintes qui nous rendent malheureux finalement. C'est juste pas intéressant, en fin de compte.
Mais comment faire justement pour lâcher ces empreintes?
Le regard, toujours le regard. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Comment ce serait s'il n'y avait pas telle pensée? Et ce qui était pensée et qui n'en faisait souffrir?
des pensées affluent, qu'elles sont négatives, automatiquement.
Eh bien, il y a des pensées négatives qui affluent. C'est juste pas possible autrement, la preuve, elles affluent. Quand la rivière coule, elle coule.
Faut les accepter, enfin.
Non.
Faut les laisser.
C'est trop, il faut les accepter. Ça apparaît de fait. Et peut-être c'est refusé. Alors, eh ben, être avec le refus. Regardez le refus. Ah, tiens, il y a des pensées plein qui arrivent, des pensées négatives. Mais j'en veux pas. Ah tiens, il y a un refus contre ces pensées négatives. Juste une, presque juste une constatation. Ah tiens, ah tiens, ah tiens. Presque par curiosité. Ah tiens. C'est ça qui est en train de se produire en moi. Puis après, on peut jouer avec. Pour essayer d'aller, pour voir, essayer de voir, mais qu'est-ce qui est vrai? Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on est tellement habitué, on a été conditionné à croire dans les pensées, l'âge de raison, vous savez, tout ça. On a été conditionné à ça. Alors, c'est comme s'il fallait se déconditionner. Alors, on va utiliser des petits trucs. Du style, ah tiens, mais, et si telle pensée n'apparaissait pas? Ah tiens, mais, et si telle pensée n'était pas là? Ah tiens, mais, et qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie, cette pensée, au fait? Mais comme ça, avec douceur, délicatesse, tendresse, amour pour soi-même, pour voir comme un explorateur, comme une maman prend un bébé dans ses bras. Vous voyez, tu es là. Oh hein, on est complètement craqué là, complètement ému, plein d'amour, plein de délicatesse, pas de tendresse, plein de tendresse, totale implication, zéro distance et pas d'identification. On sait que c'est pas nous. Mais on est complètement un avec lui quand même. Être comme ça avec ses émotions, être comme ça avec ses pensées négatives, être comme ça avec le refus, être comme ça avec la peine, être comme ça avec tout. Avec l'enthousiasme aussi. Avec l'amour, avec peu importe. Ou alors comme avec beaucoup de curiosité, comme un explorateur. C'est comme les gosses quand ils regardent pour la première fois une fourmi, quand ils se promènent. Vous avez vu, les enfants, ils s'arrêtent tout le temps pour regarder des trucs. Avec cette curiosité d'enfant, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Toute cette douceur comme ça, avec vous-même, explorez. Vous voulez dire quelque chose? Non. Je sais que tout à l'heure il y avait des choses qui se disaient là, puis j'ai dit on y reviendra et j'ai oublié.
Justement, par rapport à la mort a été évoquée, quand tu as commencé, tu as posé une question. On ne peut pas ne pas être.
Oui.
Il suffit que quelqu'un meure à côté de soi et du coup, là, on est confronté à. Si effectivement il y a la conviction qu'on ne peut pas ne pas être, la mort ne pose plus de problème. Oui. Donc, cette réponse un peu rapide qui a été faite tout à l'heure, tous, oui, on ne peut pas être, effectivement, quand on y est confronté, le cas effectivement de la mort, qui que ce soit, qui meurt, voilà, c'est parce que le test en réel qui se pose à ne pas être et pourtant le compagnon, l'enfant meurt. Alors si.
C'est le corps qui meurt.
Voilà. Mais à partir du moment où il y a cette base, tu peux dire on ne peut pas être. Si cette base n'est pas complètement réalisée, toutes les autres questions s'enfilent là-dessus.
Oui, bien sûr. D'un côté, oui. D'un autre côté, on ne peut pas trop mélanger à la fois. Ce qui est vécu, ce qui se vit ou ce qui ne se vit pas ici, avec ce qu'on sait être. C'est pas parce qu'on sait qu'on ne peut pas ne pas être qu'on ne va pas vivre un deuil quand quelqu'un est proche. Ouais. Ça n'enlève rien. Ça n'enlève rien.
On le vit, mais avec le détachement.
Ça dépend.
Le mot n'est pas.
Je dirais pas détachement, je dirais liberté. Ouais. Ça me rappelle un sage indien qui s'appelle Ramesh Balsekar, que j'ai vu il y a longtemps, qui a perdu un de ses enfants adultes, qui était déjà adulte. Et il disait, après sa mort, à certains moments, il y a des larmes qui venaient, de la tristesse qui venait. Moi, j'étais estomaqué, un grand sage comme ça, c'est pas possible. Et maintenant, je comprends pourquoi, mais à l'époque, j'ai pas bien compris. Et il m'a dit, mais ça venait, ça pleurait, et ça partait. Et c'était libre. C'est ça la différence. À un moment donné. Pas forcément tout de suite. Chacun va vivre ce qu'il vit, quoi. Puis c'est tout, je veux dire. Ce que moi je dis, c'est que s'il y a un mal-être, quel qu'il soit, quelle que soit son intensité psychologique, j'entends, hein, quelle que soit l'intensité de ce mal-être, le plus petit malaise à la plus grande des souffrances psycho-émotionnelles, c'est qu'il y a des pensées crues. Mais je ne suis pas en train de dire arrêtez de croire aux pensées parce que c'est pas bien. C'est juste regardez, attention. C'est une invitation, on regarde. C'est une invitation. Avec douceur, délicatesse, amour, tendresse, curiosité. Ou pas d'ailleurs, ça peut être saisi ou pas, peu importe. L'invitation peut être saisie.
Merci. Mais ce regard, il se travaille quand même.
Nous sommes ce regard. Il se trouve que depuis notre plus petite enfance, on nous a appris à arrêter de regarder.
Mais on nous dit qu'en amont, il faut. Il faut regarder ce regard.
Oui, ça c'est une autre étape. Mais, ce que je disais, oui.
Donc c'est pas. J'imagine que. Il faut des conditions pour que le regard naisse vraiment, apparaisse, ou renaisse ou réapparaisse. Il faut quand même des conditions. C'est là où je dis qu'il y a un travail.
Je sais pas. Ah oui. Là où je suis complètement, c'est que oui, il y a besoin comme de relancer la mécanique. En fait, elle est tout le temps là, elle est tout le temps lancée, mais comme d'y revenir, je trouve ça peut-être justement dit. Il s'agit de revenir à son regard, oui. Comme un leitmotiv, comme un mantra, tu vois. Regarde, sois avec, tu vois. Ouais, à revenir quelques secondes aussi souvent possible, comme ça, et encore, et puis c'est interpeller, dire tiens. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Revenir sans regard. Mais non pas comme une technique pour acquérir quelque chose, plus comme des retrouvailles, par amour de la vérité, par curiosité, par tendresse pour soi-même, par, pas pour, pas dans un but, pas comme une stratégie. Ah, ça j'ai compris, mais moi je vais regarder comme ça, je vais trouver la paix. Ça marche pas parce que c'est une tension. Vers.
Moi, vous avez parlé de tension, il me semble qu'en début de séance, vous avez parlé de détente.
Oui.
Donc c'est ça qu'il faut travailler pour avoir ce regard.
C'est pareil, si jamais c'est. Non. Il faut que je travaille la détente comme ça un jour j'arriverai quelque part, c'est une tension. Je suis déjà en tension vers un but.
Oui.
Et je suis déjà plus en détente.
Et si vous n'êtes pas en détente au départ?
Le regard se pose aussi. Ah tiens, je ne suis pas détendu. Ah tiens, je ne suis pas détendu. Ah ben oui, je ne suis pas détendu. Et alors, quoi? Ben, je ne suis pas détendu. C'est pas un problème.
Mais moi, ce que je dis, c'est que si pour avoir ce regard,
oui,
il faut être détendu.
Non.
Non?
Non. Vous êtes regard. Vous soyez tendu, que le corps soit tendu. Non. Qui est tension. Vous êtes regard.
Non, mais c'est l'esprit qui est tendu.
Peu importe. D'être regard. Le regard est en amont du mental, de l'esprit. Le regard constate la tension mentale à certains moments. Oh là là, qu'est-ce que je me prends à la tête? Donc c'est constaté, donc le regard le perçoit. Que ce soit conscientisé ou non, pardon?
Je dis en général, ce regard-là qui a constaté, il est agacé.
Non. Ça, c'est déjà une récupération du mental. Le mental récupère. Ah! Enfin, qu'il calme. Puis le regard, tiens, ça se prend encore la tête. Ça voudrait que ça se calme. Le regard continue à constater en permanence que l'on en soit conscient ou non, le regard est toujours là. C'est un petit peu comme tout le temps, on perçoit plein de choses dans notre corps. Et on a plein de perceptions sensorielles. Et on n'y fait pas attention. Qui est en train de faire attention à son petit doigt de pied gauche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourtant, il est bien là. Il y a plein de choses qu'on sent dans notre corps en permanence, mais on n'y fait pas attention. Et c'est pareil. Le regard est tout le temps là, mais on n'y fait pas attention. Comme quand on va voir un film, on ne fait pas attention à l'écran blanc sur lequel il est projeté. On regarde les images. Et c'est ça, c'est cette attention qui se rend au regard, à lui-même. Tu disais?
Oui, c'est une notion dont on avait parlé la dernière fois, tu me corrigeras si je ne suis pas exact, mais qu'on se met dans la position d'un observateur qui nous voit en train de vivre quelque chose. peu importe, une douleur, quelque chose. C'est toujours soi qui regarde ça. Et quand la personne, si on était décuplé, et après on prend un personnage qui regarde la personne qui nous regarde. Et du coup, on se détache de plus en plus de ces pensées crues qui nous font souffrir.
Oui, sauf que je ne le ferai pas comme un stratagème, mais comme une observation scientifique.
Une observation, c'est ça. C'est plus facile d'observer de cette façon-là que d'avoir un regard immédiat.
Ça peut aider peut-être à un moment donné, mais c'est une, en tant que stratagème et en tant qu'observation comme un scientifique, ce serait dommage.
Non, c'est simplement un regard qui est un peu éloigné de la situation actuelle.
Le regard, en fait, en réalité, habite complètement le monde.
Et là, ça peut aider.
Dans le monde, il n'est pas de ce monde, on pourrait dire, tu vois. C'est-à-dire qu'il est en réalité, c'est-à-dire qu'au départ, on peut voir comme si il y avait distanciation, mais comme je disais tout à l'heure, comme un enfant comprend dans ses bras, zéro distance, mais pas d'identification. Toi, c'est pas une observation comme ça, à distance. Moi, je, tu vois, et puis. Tu vois ?
C'est
vrai que l'on va là-dedans.
Tu vois, c'est toujours la même personne qui observe, c'est pas une autre personne. Histoire de, c'est comme un,
oui.
Une espèce de.
Il ne faudrait pas que ça devienne un petit moi et puis un grand moi qui observe.
Non, il n'y a pas de jugement chez ce jour, c'est toujours la même personne.
Ok. Ouais. Donc, juste attention à ça, mais sinon, on peut le dire comme ça. Après, c'est une question de mots. Tu vois. Ouais. Pas comme une stratégie.
Non, mais tu disais tout à l'heure, ah, tiens, le regard dit, mais tiens, c'est encore en train de s'agacer. C'est ça, c'est. C'est le regard qui observe les situations.
Donc, on peut le voir comme ça. Et c'est pas juste observer, il est complètement avec, complètement impliqué, mon regard. Comme quand on prend un enfant dans ses bras. Voilà. Tu vois, c'est complètement impliqué.
Alors ça peut être difficile pour certaines personnes en souffrance. Quoi. Donc, c'est un grand pas à faire.
Oui, mais peut-être qu'à un moment donné, on est distancié comme ça, pour pouvoir faire une part en deux chemins, en deux pas. C'est ok, je veux dire, il n'y a pas de souci.
Mais qu'est-ce qui déclenche ce désir de regard, justement ?
C'est pas la réponse.
Oui. Enfin, non.
Bah, quelle est la réponse pour toi ?
Ben, c'est en écoutant ce qui était dit. C'est ce qui a émergé.
Eh oui, mais qu'est-ce qui vient ? D'où ça provient, ce désir ?
Il est permanent.
Il est bien avant que je me commence à parler. Ouais. Et d'où est-ce qu'il provient ?
De l'être.
Ouais. Pardon ?
De soi.
De soi, oui.
Et c'est impersonnel, donc.
Quelque chose d'impersonnel, c'est ce qu'on est. Et ça se reflète en tant que désir. Sauf qu'en réalité, c'est pas un manque, c'est un plat.
On peut dire que ce que vous appelez le regard, c'est le naturel. Être naturel. Et comme dans un monde superficiel, il faut toujours se rattraper et être comme il faut. Et le naturel s'en va. Parce que le bien-être est par le cœur, des fois, on l'a dans un endroit anodin, mais on l'oublie parce qu'il faut aller vers un cours, il faut aller ici parce qu'on a trouvé ça bien. Des fois, on a l'impression qu'on est un bien-être.
Il y a un côté où on s'oublie.
C'est naturel.
Oui, il y a un côté où on s'oublie. Il y a quelque chose de, oui, il y a quelque chose de très naturel au sens propre.
Mais comme l'âme humaine est fière société, on est obligé de structurer tout ça quelque part.
On n'est pas obligé, mais c'est comme ça que ça se passe dans notre monde.
Voilà. Je suis jamais aussi bien quand je suis naturel, mais c'est pas évident d'être naturel. Être soi-même, on est tous obligés d'avoir.
La question est, est-ce que je suis identifié à ces rôles ou est-ce qu'ils vivent en moi et finalement, c'est pas grave. Est-ce que je suis affecté par tout ça ou pas? Est-ce que je suis libre de tout ça ou pas? Est-ce qu'il y a des pensées crues, des croyances qui font que je coincé et tout ça, ou pas. Peu importe, tu sais qu'on joue des rôles sociaux, des choses comme ça, ça n'a pas d'importance.
Quand il y a une souffrance que tu constates par les questions qui ont été posées, tu as quand même le désir de changer la situation.
Ouais.
Oui, parce que tu aides.
Non.
Bon, on a vu ton application.
Oui.
C'est
ce que je disais tout à l'heure. Complètement impliqué. Complètement touché.
Ouais, ouais.
Et complètement libre.
Mais quand même avec une sorte de désir secret que que la situation s'améliore et
devient. Non,
c'est pas grave. Ça change le désir de l'aider à sortir de la souffrance et de se débarrasser.
Non, il y a juste une simple présence à ce qui arrive.
Juste et
il y a juste une simple présence à ce qui arrive. Il n'y a pas de désir, c'est beaucoup trop. Ouais, t'imagines la tension à l'intérieur. Il y a juste une simple présence à ce qui se passe, à ce qui arrive.
Mais qui va vers le fait de dénouer une situation qui est crispée.
Parce que c'est la nature même des choses, ouais. dans le fond du fond, c'est la liberté. Nous sommes cette liberté même. On n'est pas cette prison dans laquelle on croit qu'on est, qu'on vit, quoi.
Il y a quand même une direction, quand même. Donc.
Mais non, c'est pas moi la direction.
Non, c'est pas toi. Mais de façon personnelle, il y a une direction à aller vers le.
Non!
Parce que la souffrance, elle crée.
Tu sais, c'est comme si tu disais. Oui, c'est la même direction que l'eau qui s'écoule. C'est naturel, tu vois. Naturellement, l'eau, elle va vers le point le plus bas parce qu'il y a l'attraction. L'attraction terrestre. Tu vois ce que je veux dire? C'est naturel, quelque chose de très naturel. Naturellement, on va retrouver notre état de santé naturel parce que c'est naturel. Naturellement. Ici, ça va aller vers ça parce que c'est naturel, ça ne peut pas ne pas. Mais il n'y a pas besoin de désir, tu vois, c'est la vie, quoi.
C'est très taoïste comme concept.
C'est très taoïste, c'est très bouddhiste, c'est très.
Ça marche pas, etc. Dans la société.
Non, j'en sais rien.
Moi, je trouve que ça marche. J'aime bien parler là-dessus, mais. Ça marche pas.
Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas en faire une stratégie.
J'aime pas une stratégie. Pour moi, c'est un bonheur, mais qu'est-ce que ça marche pas?
Ouais, c'est pas mon expérience.
L'eau est plus douce que la roche. Oui, il y a tout ça, c'est joli.
J'ai pas entendu.
L'eau est plus forte que la roche, voilà, là-dessus.
L'eau est plus forte que la roche.
Toutes ces belles choses qui caressent l'âme.
Oui, mais moi, je n'en fais pas une stratégie. Je ne vais pas faire quelque chose pour que. Ou parce qu'il dit que et parce que c'est vrai que. Tu vois, ça, c'est très différent.
Moi, ça me touche, ce n'est pas une stratégie. Ça me touche.
Voilà, c'est ça, bah, super. C'est
mais là. Ça marche pas.
Mais ça veut dire quoi, ça marche? Mais ça marche, ça te touche. Comment? Ça fonctionne puisque ça te touche.
Ah oui.
C'est bien que ça te renvoie à quelque chose de plus profond, toi.
Ouais, parce qu'on coupe au moins d'arômes, je pense. Ben, après, je suis cynique, parce que quand ça marche pas, je me dis. Ça me déçoit.
Est-ce que tu te trompes de but si je vais à dire quelque chose Tu as le secret espoir que ces compréhensions et ce que tu peux lire dans le Tao Te Ching ou des choses comme ça vont changer la face du monde, vont changer, va améliorer ta vie et la vie des autres. Tu te trompes de cible. Ça ne sont jamais les événements qui ont besoin d'être changés. En fait, rien n'a besoin d'être changé, de toute façon. Mais et ça, le Tao le dit très bien aussi. Mais la cible visée n'est pas la modification, la thérapie, pour dire, la modification de l'espèce humaine, etc. La cible visée, c'est la vérité, c'est la réalité. Et l'effet secondaire, c'est que les choses se passeront mieux. Mais ce n'est qu'un effet secondaire. Et toi, tu vises l'effet secondaire, tu rates la cible. C'est clair ce que je dis?
Oui.
Ok. Des fois ça parle comme ça, mais je ne sais pas si c'est intelligible. C'est vrai.
puis un enfant, par exemple, un ado, qui est mal rasé.
Si c'est un fait, c'est un fait.
C'est pas pareil que... Je suis pas rasé. Ok. C'est pour ça qu'à l'âge de 40, 50 ans, il y en a qui se rasent tous les jours.
Oui.
C'est bien une mémorisation qui est ancrée dans la subconscience.
Oui, exact. Et alors ?
Ben, ça peut être déstabilisant.
Oui, si quand on dit à un adolescent tu es mal rasé, il entend on ne m'aime pas si je suis mal rasé.
Oui, en fait, ou alors je veux t'amener à être rasé parce que je suis l'autorité et donc tu dois te raser.
Oui.
Ah oui, il y a de l'autorité quand même entre
oui.
Les parents et l'enfant.
Quand on dit tu es mal rasé, ça ne dit pas va te raser. Si on peut en prendre au pied de la lettre.
Ouais, enfin bon.
Tout dépend de plein d'autres choses, quoi. De l'intonation de voix, de l'obligation faite de se raser derrière ou pas, de tout ça. Peut-être que l'enfant interprète tu es mal rasé par va te raser, sale gosse. Mais ça n'a pas été dit. Peut-être qu'il a raison de penser comme ça, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, ça mériterait d'être exploré. Mais imaginons même qu'il y ait une forte autorité parentale qui dise va te raser, sale gosse, exagérons. Tu vois ? Ça ne dit rien sur ce que je suis. Ça ne dit rien sur ce que je suis. En soi, au fond, si une fois adulte, on regarde un tout petit peu, parce qu'imaginons qu'en tant qu'enfant, on ne peut pas, on regarde un tout petit peu, on sait très bien que rasé ou pas rasé, je suis ce que je suis. Et je suis. Ça ne change rien à ce que je suis.
Non, enfin, comme disait le collègue, c'est que la société, elle doit faire un jugement sur je suis rasé ou mal rasé, ce gars-là.
Oui. Voilà. Peut-être, mais pas forcément.
Que moi, combien déjà, de... c'est des mémorisations qui sont quand même ancrées, quoi.
Oui.
Alors peut-être qu'effectivement, bon, on est plus ou moins. Comment
dirais-je. Pourquoi y être.
Peut-être qu'il y a des obsessions qui reviennent là-dessus.
Oui.
Mais
qu'est-ce qui fait qu'on y est encore soumis aujourd'hui. C'est ça, la question. Parce qu'on y a été soumis étant enfant, on n'a pas trop le choix, ok. Mais une fois adulte, qu'est-ce qui fait qu'on est encore soumis à ces dictats. On n'a plus besoin des autres pour survivre, quoi. Puis à la limite, même si on ne survit pas, qu'est-ce que ça veut faire. Je vous à moi. Très sincèrement. La question, elle est là. Bien sûr qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a été traumatisant pour l'enfant. La question de ça. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, 10 ans, 50 ans plus tard, ça continue à s'accrocher à la parole parentale, à ce qui a été dit à ce moment-là, comme si ma vie en dépendait.
Voilà.
Mais c'est faux, ma vie n'en dépend pas.
D'accord, alors qu'est-ce que je fais? Demain matin, qu'est-ce que je fais?
Bah, tu te rases ou pas? Bien sûr, je t'en aimerais pas plus ni moins. Ça peut pas,
ça fonctionne.
Et si l'amour que j'ai pour toi dépend du fait que tu es bien rasé ou pas rasé, excuse-moi, mais fous-moi dehors. Parce que tu mérites pas ça, tu vois, et tu mérites beaucoup mieux, quoi. Et c'est pas de l'amour, c'est de la merde. Tu comprends ce que je veux dire?
Donc, dans tout ce que tu dis, il y a quand même un travail de fond énorme, hein, je veux dire.
De regard. De remagard. Et de une remise en question incessante de qu'est-ce que je crois. Et pas seulement de ce que je crois dans ce que tu me rapportes là, de remise en question fondamentale de. Oh, comment formuler ça? De tout mon système. Point, tu vois. De tout mon système de fonctionnement, psychologique, émotionnel, physique, etc. Tu vois, c'est... Mais c'est quoi ce système qui me bouffe la vie? qui m'empêche de vivre, d'être qui je suis, d'être tranquille, d'être libre, d'être, tu vois, de laisser la vie s'exprimer en moi comme elle a envie.
Dans le bonheur ou la souffrance, hein.
Mais pas dans la bonheur ou dans le plaisir ou dans la douleur, tu vois, plutôt. La souffrance est toujours liée à des pensées. Tu vois, encore aujourd'hui, dans ce que tu me rapportes, tu es encore coincé dans ces conditionnements d'enfant. C'est eux qui gèrent ta vie, c'est pas toi. Et ces conditionnements, regarde-les. Il n'y en a pas un qui tient la route, il n'y en a pas un qui a du sens. Et c'est ça le travail de fond. C'est regarde tout ce qui fait ta vie, tout ce système fallacieux, pété, enfin, comment ça s'appelle ? Maladif, mais dans le bon sens du terme, toi, c'est pas contre toi, c'est au contraire pour toi, tu vois, c'est vraiment. C'est pas toi qui es malade, c'est le système qu'on t'a collé dessus. C'est pété, quoi. Le système, il est pété. C'est pas toi qui es malade. C'est le système. Éclate-le, fous-le à la poubelle, quoi. Et regarde qu'est-ce qui est vrai. Regarde qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et petit à petit, il y a des choses qui vont s'effondrer. Donc fous-toi à la poubelle, hein.
Je peux poser une question à l'ancien ici, enfin, je ne sais pas si vous êtes toujours.
J'étais un.
Et souvent, en relation à ce qu'il dit, quand il y a des exemples comme ça, on peut se dire bon, ben, on me l'a dit, j'en tiens plus compte, je fais autrement. Souvent, quand on interroge quelque chose qui se passe, c'est manifestement être conscient de ce qu'on fait, et là, cette phrase plus forte que nous.
Bien sûr.
Et qui est complètement quand ce sont des exemples pratiques, c'est relativement simple. Mais quand c'est un émotionnel qui vient au plus fond, c'est genre de la jaune, pour des choses stupides, on se fait tout ça vient d'un ancien problème.
Et il n'y a que le regard qui pourra répondre.
Le regard.
C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose comme ça, on est emporté pour rien, même si ça peut être grave ou pas, peu importe.
Ça peut être anodin, mais je sais.
Parfois c'est anodin.
Oui.
Ok,
qui a l'air anodin.
Oui. Alors, il ne s'agit pas de se dire « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai encore fait ? Mais pourquoi t'en es encore là ? Il faut que j'aille encore retourner voir mon thérapeute, etc. » Tout ça, ça sert à
rien. On ressent des choses.
Voilà, on ressent.
Ils nous affaiblissent et on ne peut pas faire face à la situation.
Stop.
C'est ça que je pense.
Stop. Il y a des choses vraies et fausses. On ressent plein de choses dans son corps. Lesquelles ? Et c'est là que le regard doit commencer à se poser. C'est-à-dire qu'on est emporté par quelque chose. Ouh là là ! Je suis emporté. Curiosité. Prendre ça dans ses bras. Déjà, l'attitude est différente. Et si je refuse d'être emporté, alors je ne m'occupe plus d'être emporté, je m'occupe du refus. Et là, je vais regarder le refus. Et peut-être qu'en plus, je refuse de refuser. Ah, mais il ne faudrait pas en plus dire, ah, il a dit que, il faudrait que tu vois. Non, non. Refus du refus. À chaque fois que quelque chose apparaît, vous allez prendre la dernière chose qui apparaît. Regardez ça. Par exemple, je suis emporté, mais en plus je refuse, évidemment, on ne veut pas, tu comprends ? On sait que ça fait du mal, on ne veut pas. Regardez le refus. Oubliez qu'on a été emporté, regardez le refus. Jusqu'à ce que être emporté soit accepté. Non pas parce que je l'accepte, mais parce que le refus est vu comme fallacieux et s'effondre de lui-même. Je n'accepte pas. Le regard, par sa magie propre, montre que les choses sont fausses, elles s'effondrent. Faux, erroné, mensonge. Alors, comment on regarde le refus ? Eh bien, d'abord, c'est « Ah tiens, ça refuse d'être emporté par des banalités comme ça. » Et comment ça se vit le refus dans le corps ? Quelles sont les sensations physiques pures ? Pas les interprétations, pas ça me dit le cœur, je ne sais pas quoi. C'est tension. Oui, vraiment quelque chose de très physique. Très, et très concret aussi. Tension, poids, piqûre. Brûlure, fraîcheur, frémissement, des choses comme ça. Très simple. Pas ça me tord le ventre et ça me serre le cœur et je sais pas quoi. Non. Juste basique. Et juste être avec la sensation. Mais cette sensation, elle est vraiment douloureuse? Elle est vraiment désagréable? Elle est insupportable? Jamais. Je peux être avec. Donc, restez simplement être avec la sensation. Oubliez le mot refus. Et à un moment donné, ou bien tout s'effondre de soi-même, ou bien il y a une pensée qui apparaît. Voilà, t'es vraiment comme ça le type. Attaque ! Par exemple, je dis n'importe quoi. Prenez cette pensée. Oh, tiens, ça pense que c'est un sujet à ça le type. Mais qu'est-ce que j'en sais au fond ? Qu'est-ce qui fait dire que c'est vrai ? Et là, peut-être des souvenirs peuvent remonter, ou peut-être rien du tout, ou peut-être ça s'effondre de soi-même, ou peut-être on faut revenir aux sensations corporelles. Et vous jouez comme ça entre les sensations corporelles, et quand il y a des pensées, mais à les saisir, regardez-les, est-ce qu'elle est vraie? Qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie? Souvent, on ne sait pas. Est-ce qu'elle vaut la peine d'être crue? Qu'est-ce qu'elle crée dans ma vie? Souvent que des désordres. Est-ce qu'elle vaut la peine d'être crue? Ben non, puisqu'elle crée des désordres. Est-ce qu'elle est vraie là-bas? J'en sais rien. Est-ce que ça vaut la peine de croire une pensée? Je ne sais pas si elle est vraie, elle crée que des désordres. Ben non.
On essaie de se raisonner comme ça, et ça peut venir amener jusqu'à des tocs de notre pull.
Non, parce que
si j'ai un moment de vie, ne va pas faire quelque chose. C'est bon, on regarde moi ça.
Regardez l'angoisse. Regardez le refus de l'angoisse. C'est pareil. Alors, une fois que le refus s'est effondré, alors on va pouvoir enfin s'adresser à « je suis emporté ». Voilà. Et là, parfois, ça peut être carrément très drôle. Parce que parfois, on aime être emporté pour rien. Parce que c'est amusant. Par exemple. Et puis c'est une façon d'avoir le pouvoir. Et puis c'est une façon d'embêter l'autre, de le taquiner presque. Vous voyez ce que je veux dire? Un frère, un jour, j'ai un de mes frères qui a sorti sa femme misère, et à chaque fois qu'il fait du bricolage, à chaque fois il s'énerve, il vient plus voir. Il dit, ben oui, il faut bien quand même que je monte comme j'en chie. Vous voyez ce que je veux dire? Des trucs comme ça. Puis etc., etc. Mais vous voyez, simplement être avec. Mais ce coup-là, ça va pouvoir être rencontré directement parce qu'il n'y a plus le refus qui vient me bloquer. Alors c'est vrai, de ce côté-là, il y a une sorte de travail, entre guillemets, à faire. Mais en fait, c'est toujours pareil, on s'intéresse à la nature de la réalité, c'est qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui se passe en réalité, là, maintenant? Puis pareil, avec la culpabilité. C'est mal ce que je fais là. De toute façon, est-ce que j'y peux quelque chose? Est-ce que ça arrive de soi-même? Est-ce que c'est moi qui le fais? Est-ce que... Regardez ça, quoi. Et la culpabilité, comment on la ressent dans le corps, etc., etc. Et puis, quand même, dès que l'occasion se présente, regardez de l'autre côté. C'est-à-dire, mais je suis conscient d'être conscient. Qu'est-ce qui est conscient d'être conscient?
La peur paralyse beaucoup de choses. Le mental.
Être avec la peur. La peur, elle est toujours construite à base de pensées crues. Lesquelles? Est-ce qu'elles sont vraies? Même processus, quoi.
Donc parfois la souffrance est telle que vous n'avez plus le droit de raisonner.
Oui.
Vous êtes dans une telle souffrance, comme monsieur, je pense qu'il y a une telle souffrance qui arrive à un moment, même si vous savez, si vous avez les instruments, même si vous avez tout ça,
exact.
Vous n'y arrivez plus. Parce que
alors vous n'y arrivez plus. C'est parfaitement OK.
Il n'y a pas que monsieur, il y a beaucoup de monde.
Non, mais
c'est parfaitement OK. C'est parfaitement OK. Oui. C'est
si
vrai.
Vous donnez des éléments, parce que en théorie, c'est facile.
Non, mais ça c'est vrai. Mais c'est profondément exact.
Mais en pratique, quand vous êtes dedans, vous êtes en plein dedans, et vous n'arrivez plus, de toute façon, vous êtes dans une telle détresse, on a beau vous donner tous les éléments.
Ça fait juste hurler un peu plus fort.
Voilà, vous n'arrivez pas.
D'accord.
Vous n'arrivez pas, vous êtes dans un cercle vicieux, dans un cercle infernal, et vous faites comment?
Non. Le cercle infernal provient du fait que j'accepte pas d'être débordé et de ne plus pouvoir rien faire. Alors ça se met à tourner en rond. C'est vrai, il y a des moments où je ne peux plus rien faire, je sais, parce que je l'ai vécu pendant plusieurs années. La seule chose que je pouvais faire à cette époque-là, c'était m'asseoir et attendre que ça passe. Ça pouvait prendre des jours.
Vous pouvez parler un petit peu plus fort?
Je peux essayer, ouais. D'habitude, on dit que ma voix porte. D'habitude, on dit parle moins fort.
La première fois que vous parlez accepter, parce que plusieurs fois vous avez dit accepter, à quoi ça sert, ouais, ça peut, si je me rappelle bien.
Non, j'ai pas dit à quoi ça sert, j'ai dit qu'on ne peut pas le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse accepter ou pas d'accepter. Ce que je dis, c'est que c'est trop d'efforts de vouloir accepter, de chercher à accepter. Quand ça refuse, ça refuse. C'est la réalité. Être avec cette réalité, regarder en face cette réalité, c'est ça que je propose. Quelle qu'elle soit. Et si c'est, je suis déporté, je ne peux plus, et ben je suis avec.
Même si c'est pour des années.
Ça a duré des années.
Ça a... Dans cette souffrance. C'est...
Dans mon cas, ça a duré des années.
C'est difficilement supportable.
Très.
Oui, mais si on prend l'analogie du film, est-ce que la transformation, est-ce que la résolution des problèmes, ton propre éveil ou réalisation, était à l'intérieur du film? Ou est-ce que toi, aujourd'hui, oui, en tant que personnage à l'intérieur du film commun que nous vivons, tu es là pour amener une résolution et c'est déjà programmé dans le film?
Pour moi, oui, tout est déjà dans la bobine.
Tout est déjà dans la bobine, mais alors, oui. C'est ça qui est un peu amusant et terrible, parce que, effectivement...
Mais non, c'est juste amusant.
Oui, oui.
C'est pas la différence entre toi et moi.
Les souffrances apparentes qui sont là... Sont,
mais oui, mais le problème, c'est que je t'ai bien dit pour moi, parce que tant que c'est pas réalisé...
Ouais. Là, tu continues à être à la fois dans le film et en dehors.
Et pas de séparation.
Mais ton personnage participe quand même de la lumière à l'intérieur du film, qui est déjà programmée. La résolution des conflits,
oui,
si vous avez des difficultés, est déjà programmée. Mais ton personnage en fait partie.
Oui.
Tout va bien.
Ben oui, c'est un rêve commun. Il n'y en a qu'un. Il y a un seul rêveur, ce qui est. Et c'est ce que nous sommes.
Alors le rêveur arrive quand même à modifier le... Non.
Pas vu d'ici.
Tu es celui qui a fait ce saut. Ici, des deux côtés.
Vu d'ici, tout arrive de soi-même. Vu d'ici, naturellement, les arbres poussent, fleurissent, font des fruits qui tombent par terre, etc. Tu comprends ce que je dis? C'est naturel.
C'est quand même gentil.
Ça arrive de soi-même.
C'est gentil. Tout aurait pu être terrible, finalement. On aurait pu être dans un univers absolument sans lumière. Finalement, il y a des éléments comme ça qui arrivent.
Ouais, ça, c'est qu'un point de vue, ça.
Qu'on constate.
Mais si tu veux, quand on va au cinéma, c'est pas pour regarder un écran blanc.
Non, évidemment. Mais on a...
C'est pour regarder une histoire. Pourquoi? Parce qu'on aime les histoires. Alors on se raconte des histoires.
Mais...
Tant qu'on n'est pas pris par les histoires, tout va bien. Quand on commence à croire aux histoires, c'est la fin des haricots. C'est tout.
Mais on a quand même l'impression, certains cinéastes qui ont utilisé cet effet, qu'à l'intérieur du film, le personnage se tourne vers le spectateur et dit « Hey, tout va bien
oui. ».
Et on a un peu l'impression de ça, avec
ouais,
cette rencontre.
Il y a un côté comme ça, oui. C'est tout à la fois, tu vois, s'il n'y a pas de séparation. Les plans de conscience, entre guillemets, ne sont pas séparés les uns des autres. C'est tout un. En fait, ils sont, dans ce qu'ils perçoivent ici, complètement imbriqués les uns dans les autres. Il y a pas de... Au début, il y avait comme le monde phénoménal et puis le reste, tu vois, et puis le monde ménal, on va dire. Et puis, et ça m'a frappé parce que petit à petit, ça s'est complètement fusionné, tu vois. Si tu m'en parles, bah oui, bien sûr, c'est évident. Si tu m'en parles pas, c'est comme ça. Mais en même temps, ça ne change rien à rien. Et j'adore ce paradoxe. J'adore ce côté jeu. C'est juste un grand amusement intérieur. C'est un grand rire à l'intérieur.
Cette théorie de l'être, sans le moi et le jeu, c'est de vous ou vous avez reçu l'enseignement?
Oh, c'est pas de moi, il y a plein de gens qui le disent depuis la nuit des temps, le Tao déjà.
C'est un ensemble de choses.
C'est la nature de la réalité qui est réalisée chez certains et pas chez d'autres. On pourrait dire ça comme ça, mais j'aime pas trop ces mots. Mais voilà. En fait, elle est réalisée chez tout le monde. Elle est consciente chez certains et pas consciente chez d'autres. Et moi, tout ce que je fais, c'est dans l'air, appuie-toi. C'est pas ce que tu crois que t'es. Ouh. Arrête de croire que t'es autre chose que ce que tu es. On pourrait résumer ça comme ça. Tu vois. Reminder. Ça me fait penser qu'il y a un livre qui s'est écrit il y a plusieurs années qui s'appelle Regardez ce qui est et souris. J'en ai même pas mis un seul exemplaire, j'ai oublié.
Donc, pour trouver tout ça sur quel site vous avez...
Regardez ce qui est.org. Et c'est ça le livre de Nisargadatta Maharaj, pour ceux qui connaissent, I am that, avec un T majuscule en anglais, c'est I am that. En français, c'est par je suis, qui est très très bien traduit. C'est je suis cela, je suis ce qui est. Cela qui seul est.